La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Le titre de la présentation de cet après-midi, de notre première présentation de cet après-midi, parce qu'il y en aura deux, est, comme vous le voyez affiché à l'écran, « La vérité présente ». Mais avant de rentrer dans cette présentation, nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière et j'inviterai ceux qui le peuvent à pouvoir se prosterner avec moi. Éternel notre Dieu, quel grand privilège pour nous que de pouvoir nous présenter devant ta face en cet instant. Et alors que nous sommes encore durant ces heures du Saint-Sabbat que tu as institué avant la fondation, à la fondation du monde, Père, que tu as mis à part pour l'homme, que tu as institué pour l'homme, eh bien, nous voulons une fois de plus nous mettre à l'étude de ta parole. Et nous te demandons pour cela de bien vouloir nous accorder l'esprit de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, l'esprit de Jésus, afin que nous soyons en mesure de tirer profit pleinement des paroles que nous allons considérer dans les Saintes Écritures que tu as communiquées à l'humanité. Bénis ce moment, touche les lèvres de ton serviteur afin que le message puisse être donné pour ta gloire et touche les cœurs des auditeurs, quels qu'ils soient, afin que la vérité soit quelque chose de présent pour chacun d'entre nous. Merci pour tes bienfaits envers nous. Nous n'en sommes pas dignes, mais c'est en Jésus que nous t'avons prié. Amen. Okay. Le texte de base de cette présentation se trouve en 2 Pierre, chapitre 1, verset 12. Et j'ai volontairement placé tous les textes sur diapo, d'accord? Parce que nous allons avoir un certain nombre de textes à considérer. Mais ce soir, ce qui va se passer, c'est que je vais uploader, je vais charger cela sur le site internet et ils seront disponibles sous la page diapositive, d'accord? Donc, toutes les présentations de ce soir seront disponibles sous la diapo. Donc, sentez-vous libre de prendre des notes, d'ouvrir la Bible, d'accord? Et car nous allons tâcher, avec la grâce de Dieu, d'avoir une présentation assez exhaustive, d'accord? En 2 Pierre, chapitre 1, verset 12, nous lisons « C'est pourquoi « je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoique vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » La vérité présente, mes amis. Le terme qui est traduit par « présente » dans ce verset vient du grec « paremi », okay? Lequel est ici conjugué au présent, mais aussi à la voix active, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Paremi et au présent, donc le temps c'est le présent, et la voix c'est quelle voix?
Active.
En grammaire, la voix active exprime que le sujet est celui qui accomplit l'action décrite par le verbe, ce qui est le contraire de la voix passive. D'accord? Le sujet subit l'action décrite par le verbe. Mais ici, dans le texte grec, présente et à la voix active. Donc, cela exprime que le sujet, à savoir que la vérité, est celle qui accomplit l'action qu'est le fait d'être présent. D'accord? Et appliqué à ce verset, comme je le disais, nous comprenons qu'il s'agit en réalité de la vérité qui est présente. D'accord? La vérité qui est en train de se présenter, qui est présent, très, très précisément. Considérons maintenant une définition de présent. Une définition de présent dans le Robert Dictionnaire, qui est la suivante. Qui existe, se produit au moment, à l'époque où l'on parle, ou dont on parle. Les circonstances présentes. Il est dit actuel, l'instant présent. D'accord? Donc, ce sont là deux exemples qui nous sont donnés par le dictionnaire Robert suite à cette définition. Donc, notez cela. Présent, c'est quelque chose qui existe, qui se produit au moment, à l'époque où on parle ou dont on parle. Lorsqu'on parle de vérité présente, il ne s'agit pas tellement de la vérité qui avait été mise au placard et que l'on nous présente, mais plutôt de la vérité qui nous concerne dans le présent, c'est-à-dire qui existe ou qui se produit dans notre présent, en fait. Je reprends. Il s'agit de la vérité qui nous concerne dans le présent, c'est-à-dire qui existe ou se produit dans le présent. La vérité à laquelle Pierre se référait ici était l'ensemble de l'enseignement chrétien dans lequel les croyants avaient été instruits et qu'ils croyaient. Et en Éphésiens, chapitre 1, verset 13, nous lisons « En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » D'accord? Et vous pouvez comparer aussi avec Colossiens 1, verset 5 et 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Le présent des 12 apôtres qui vécurent il y a environ 2000 ans est pour nous le passé. Et notre présent était pour eux le futur. La vérité qui nous concerne est-elle alors exactement la même que celle qui les concernait? Étant donné que notre présent était leur futur et que leur présent est notre passé. Est-ce que la vérité qui nous concerne est exactement la même que celle qui les concernait? Ah, quelqu'un dit oui, quelqu'un dit non. Ah. Étant donné qu'il est celui qui annonce la parole de Dieu, toutes les vérités habitent en Jésus-Christ. En effet, en Jean chapitre 1, verset 14, il est dit « Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Et étant donné qu'il est la parole faite chair, nous comprenons pourquoi Jésus déclara qu'il est la vérité. En effet, en Jean 14, verset 6, nous lisons, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » La bonne doctrine, c'est-à-dire l'enseignement pur, a pour objectif, bien-aimé, de nous rapprocher de Christ, par une révélation claire de sa personne et de son œuvre. En Éphésiens, chapitre 4, verset 20, nous lisons, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. » Ok? Donc, remarquez que Paul déclara ici que ce n'était pas ainsi que les Éphésiens avaient appris à connaître Christ. D'accord? Lorsqu'on vous dit que ce n'est pas ainsi que tu as appris cela, cela signifie que vous avez reçu un enseignement. D'accord? Donc, il y a bel et bien un enseignement qui concerne Jésus. Et en réalité, normalement, une bonne doctrine est celle qui nous donne une compréhension claire de Christ et de sa personne et de son œuvre, d'accord? Et Paul nous dit, concernant Christ, en Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. C'est ce que l'Écriture dit, n'est-ce pas? D'accord. Notez que Paul ne dit pas que Jésus-Christ fait la même chose. Mais qu'il est le même. Je reprends. Paul ne dit pas que Jésus-Christ fait la même chose hier, aujourd'hui et demain, mais qu'il est le même, qu'il ne change pas, d'accord? Hier, aujourd'hui et demain. Être et faire, bien-aimés, sont deux choses différentes. Il y a 5 ans, j'étais Jean-Christophe Bolotte. Ma mère peut vous le dire, ma mère est là. Aujourd'hui, encore, je suis Jean-Christophe Bolotte. Et demain, si Dieu me prête vie, je serai encore Jean-Christophe Bolotte. Mais voyez-vous, et ma mère peut vous le dire, il y a 5 ans, j'œuvrais en tant que géomètre. Oui, j'œuvrais 38 heures par semaine en tant que géomètre. Alors qu'aujourd'hui, j'œuvre beaucoup plus que 38 heures par semaine en tant que pasteur. J'œuvre bien plus de 38 heures par semaine dans le ministère de la prédication de la parole de Dieu en tant que pasteur et évangéliste. Et demain, mes amis, si Dieu me prête la vie, j'aspire à continuer dans cette œuvre. Je suis la même personne, mais je n'occupe pas la même fonction. Et c'est ce qu'il en est pour Jésus, voyez-vous. Il a toujours été et sera toujours le Fils de Dieu. Mais il fut un temps où, avant de venir sur terre, il n'avait pas la nature humaine. En effet, en Hébreux 10, verset 5, le concernant, il a été prophétisé, ou tout du moins, l'apôtre Paul cite une prophétie de l'Ancien Testament en disant, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. » Donc, il y a bel et bien eu un temps où Christ n'avait pas la nature humaine, parce que Dieu lui a formé un corps pour qu'il puisse s'incarner, en fait, et devenir homme comme nous le sommes. D'accord? Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est qu'il fut un temps où il vécut personnellement sur terre, comme on peut le voir en Jean 10, verset 23. Comme Jésus se promenait dans le temple, au portique de Salomon, etc., etc. Donc, il y eut un temps où Jésus marchait sur cette terre. D'accord? Il y eut aussi un temps où il était mort. En effet, en Jean 19, verset 30, « Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Il fut un temps où il ressuscita aussi des morts. En Matthieu 28, versets 5 et 6, « Or l'ange, prenant la parole, dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. » Verset 6, « Ce n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché. » Il y eut aussi un temps, mes amis, où il monta au ciel, conformément à ce que nous lisons en Actes 1, versets 9 à 11. Et après qu'il eut dit ces choses, il fut élevé pendant qu'il les regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux attachés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes se présentèrent à eux en vêtements blancs et leur dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Mais à l'heure où nous parlons, Jésus est-il toujours sans la nature humaine? Est-il toujours personnellement sur terre? Est-il toujours mort? Est-il en train de ressusciter? Est-il en train de monter au ciel? Non! Il est toujours la même personne, mais il n'est pas dans la même situation et n'occupe pas la même fonction. Par conséquent, la vérité qui est active, comme Jésus lui-même, aura pour notre temps des caractéristiques différentes à celles d'hier, car la vérité présente se rapporte à l'œuvre et au ministère exercé par le Christ dans le présent. Je reprends ça. La vérité est active comme Jésus lui-même est actif. Et de ce fait, elle aura pour notre temps des caractéristiques différentes à celles d'hier. Car la vérité présente se rapporte à l'œuvre et au ministère exercé par le Christ dans le présent. Par conséquent, la grande question que nous devons nous poser durant cette heure est la suivante. Quelle œuvre la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, est-elle en train d'accomplir en ce moment? Je reprends la question. Pasteur Alan Stump vous a posé 3 questions dans sa présentation de ce matin. Moi, je vous en pose une seule. Quelle œuvre la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, est-elle en train d'accomplir en ce moment? Après être monté au ciel, la Bible nous dit que Jésus est entré dans le sanctuaire céleste en tant que souverain sacrificateur. En effet, en Hébreux 8, versets 1 à 2, « Or, le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. » Le sanctuaire terrestre et ses services étaient une image et ombre du sanctuaire céleste et de ses services. En effet, en Hébreux 8, versets 4 à 6, nous lisons « Car s'il était sous la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisqu'il y a des sacrificateurs qui offrent les dons selon la loi et qui rendent un culte, image et ombre des choses célestes, selon l'ordre divin qui fut donné à Moïse lorsqu'il devait dresser le tabernacle. Prends garde. » Et là, on cite Exode 25, versets 8 et 9. « Lui dit-il, de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sous la montagne. » Verset 6. « Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente et qui a été établi sur de meilleures promesses. » Le sanctuaire terrestre était composé de 2 appartements. Il y avait tout d'abord le lieu saint et le saint des saints, ou le lieu très saint. Et on entrait quotidiennement dans le lieu saint, tandis que le lieu très saint n'était accessible qu'un jour durant toute l'année. Et les services du sanctuaire terrestre se décomposaient essentiellement en 2 parties. Premièrement, il y avait le service quotidien, pour l'administration du péché, donc dans le lieu saint, et deuxièmement, le service annuel qui avait lieu durant le jour des expiations et qui était considéré comme un jour de jugement et qui avait lieu quant à lui dans le lieu très saint, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est ce que Paul nous dit en Hébreux 9, versets 1 à 7. La première alliance avait donc aussi des ordonnances touchant le service divin et le sanctuaire terrestre. En effet, on construisit le premier tabernacle dans lequel était le chandelier, la table et les pains de proposition. Et il était appelé le lieu saint. Et au-delà du second voile était le tabernacle appelé le saint des saints, ayant un encensoir d'or et l'arche de l'alliance, toute recouverte d'or, où était une urne d'or contenant la manne, la vierge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Et au-dessus étaient les chérubins de gloire, couvrant le propitiatoire de leur ombre. Ce dont il n'est pas besoin maintenant de parler en détail. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs entrent bien continuellement dans le premier tabernacle en accomplissant le service divin. Mais seul le souverain sacrificateur entre dans le second une fois l'année, non sans porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Étant donné que le sanctuaire terrestre était l'image de celui qui était dans le ciel, et devrais-je dire qui est dans le ciel, et qu'après les services quotidiens dans le lieu saint, il fallait encore que le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint, il convient de conclure qu'après être entré dans le lieu saint du sanctuaire céleste, immédiatement après son ascension, il fallait encore que le Christ exerce un ministère dans le lieu très saint de ce même sanctuaire céleste dont nous parlons. En effet, dans le livre de l'Apocalypse, qui est en fait la révélation de Jésus-Christ. C'est comme ça que ça commence en tout cas. Donc c'est la révélation de Jésus-Christ. D'ailleurs, Apocalypse vient du grec apokaluptos, qui signifie enlever le voile, donc la révélation. Apocalypse 11, verset 19, il est dit « Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance parut dans son temple. Et il y eut des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et un tremblement de terre, et une grosse grêle. » Le livre de l'Apocalypse, mes amis, est une révélation de Jésus-Christ dans l'œuvre qu'il a entreprise après son ascension. Vous avez compris ça? C'est très important. Le livre de l'Apocalypse, mes amis, est une révélation de Jésus-Christ dans l'œuvre qu'il a entreprise après son ascension. Or, d'après cette révélation, il y eut un temps où l'Arche de l'Alliance, laquelle se trouve dans le lieu très saint, parut dans le temple ou le sanctuaire céleste. Ce qui indique que Christ est passé du lieu saint vers le lieu très saint à la fin d'une certaine période ou à un certain moment. D'accord? Car rappelez-vous que le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint où se trouvait l'arche à un moment bien précis de l'année. D'accord? Et mes amis, c'est à la fin de la période indiquée en Daniel 8, 14 que Jésus-Christ est entré dans ce lieu. En effet, il est dit, « Et il me dit jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Voyez-vous, la raison pour laquelle cette période de temps est une prophétie symbolique s'appliquant à l'ère chrétienne est que le souverain sacrificateur terrestre entrait une fois par an dans le lieu très saint, c'est-à-dire tous les 360 jours. Okay? Dans notre calendrier grégorien, nous avons 365 jours. Et avec, quand il ne s'agit pas, toujours est-il, des années bissextiles. Mais le calendrier hébreu et hébraïque est plus simple. C'est 360 jours pour une année. D'accord? Et s'il fallait l'apprendre de manière littérale, cette période de 2300 jours, entre 2300 soirs et matins, donc 2300 jours, parce qu'à la création, il est dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, donc 2300 jours. Eh bien, s'il nous fallait prendre cette période de manière littérale, elle correspondrait à 6 ans et 4 mois. OK? Ce qui dépasse largement 360 jours. OK? Mais selon la règle d'interprétation que nous avons en Nombre 14, verset 34, et Ézéchiel 4, verset 6, nous savons qu'un jour prophétique équivaut à une année littérale, à savoir 360 jours. Par conséquent, les 2300 jours de la prophétie de Daniel 8, 14 équivalent à autant d'années littérales, à savoir 2300 ans. Et au chapitre 8 du livre du prophète Daniel, vous pouvez le lire du début à la fin et vous verrez qu'il n'y a aucune date qui est donné comme point de départ de cette période prophétique. Mais lorsque nous nous rendons au chapitre 9, là où l'ange Gabriel revient après pour expliquer à Daniel ce qu'il n'avait pas pu lui expliquer, parce que Daniel était tombé en défaillance, donc il n'avait pas pu tout recevoir. Quelques années après, au chapitre 9, Gabriel revient et il explique à Daniel. Et lorsque nous étudions le verset 25 du chapitre 9, nous voyons qu'il s'agit de l'an 457 avant Jésus-Christ. Ce qui, ajouté à 2300 années, nous amène à l'an 1844 de notre ère. D'accord? Nous pourrions, si nous avions le temps, étudier aussi, d'accord, les trois malheurs d'Apocalypse pour voir qu'effectivement, aux alentours de 1840, il y eut un événement lié à celui qui est mentionné en Daniel 14. Donc, ce n'est pas simplement cette prophétie-là qui nous permet d'arriver à cette époque de l'histoire de ce monde, mais cette prophétie que nous avons en Daniel 8, 14 est la plus longue période prophétique de la Bible. Il n'y en a pas de plus grande, mes amis. Il n'y en a pas de plus grande. C'est la plus longue période prophétique. Et voyez-vous, ayant dit cela, nous réfléchissons et nous voyons que nous sommes aujourd'hui en 2020. Ok? Nous sommes en 2020. Le 4 janvier 2020, si je ne me trompe pas. Mes amis, nous sommes en 2020. Et il y a 176 ans de cela, Jésus-Christ a entamé la phase finale de son œuvre médiatrice en notre faveur dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et ce n'est pas tous les chrétiens qui sont au courant de cela. Beaucoup professent être disciples du Christ. Mais il est intéressant de noter la définition du disciple. Qu'est-ce que la définition du disciple? Un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui suit Jésus, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui suit. Donc, si nous disons que nous sommes disciples de Jésus, nous devrions normalement suivre Jésus, ok? Donc, tout disciple se devrait normalement de savoir où est son maître, ce que fait son maître, de manière à pouvoir le suivre là où est-ce qu'il est, par la foi, bien sûr, dans le ciel. L'objectif de l'œuvre qui se faisait dans le service quotidien fut décrit comme suit en Lévitique 4, versets 27, 28 et 35. Là, nous lisons, « Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché par erreur en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, ce qui ne doit pas se faire, et qu'il se rende coupable, verset 28, « lorsqu'on lui aura fait connaître le péché qu'il a commis, il amènera pour son offrande une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse de l'agneau du sacrifice de prospérité. Et il les fera fumer sous l'autel à la manière des sacrifices de l'Éternel faits par le feu. » Et notez bien la dernière phrase. « Ainsi, le sacrificateur fera l'expiation pour cet homme, pour le péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. » Notez qu'ici, il y a une expiation qui est faite, d'accord? Et que cette expiation pourvoit ou procure le pardon. Est-ce que tout le monde a compris cela? Ok? D'accord. Ça, c'est ce qu'il en était durant les services quotidiens, d'accord? Nous avons là une expiation qui procure le pardon, ok? Maintenant, notons l'objectif de l'œuvre qui se faisait lors du service annuel, tel que décrit en Lévitique 16, versets 29 et 30. « Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucune œuvre, ni celui qui est du pays, ni les étrangers qui séjournent au milieu de vous. » Verset 30. « Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » Ici, en ce dixième jour du septième mois, jour qui était, au passage, je vous le dis, appelé le jour des expiations, il nous est dit qu'il y avait là une expiation qui était faite. Mais notez que l'objectif n'est pas le même que celui qui, que celle qui avait lieu durant les services quotidiens. Ici, il ne s'agit pas d'une expiation pour le pardon des péchés, mais d'une expiation pour la purification des péchés, d'accord? Pasteur Allen Stump aura l'occasion cette semaine de nous présenter l'expiation finale, l'expiation en deux phases, ok? Donc, je ne vais pas rentrer dans ce concept-là en profondeur maintenant, d'accord? Je lui laisserai le soin de nous présenter cela au cours de la semaine. D'ailleurs, je ne vous dirai pas quand, c'est pour que vous puissiez venir. Donc, nous avons ici, en ce 10e jour du 7e mois, une expiation qui était faite, cette fois-ci, pour la purification des péchés. D'accord? Donc, si nous résumons la chose, sur la croix a eu lieu une expiation, à savoir que Christ a versé son sang pour que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés. Mais dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, à partir de 1844, Christ accomplit une œuvre d'expiation, laquelle a pour objectif la purification des péchés. Cela pourrait peut-être vous paraître étrange. Mais mes amis, nous devons être sûrs d'une chose, c'est que Dieu désire non seulement nous pardonner, mais également nous purifier de toute iniquité. En effet, en Jean, 1 Jean, chapitre 1, verset 9, il est dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, première étape, et pour nous, deuxième étape, purifier de toute iniquité. Okay? » Donc là, nous voyons les deux phases de l'expiation. Okay? Nous voyons la dualité de l'expiation. Premièrement, le pardon. Deuxièmement, la purification des péchés, mes amis. En plus du temple céleste, il y a de nos jours encore un temple terrestre dans lequel et auquel Dieu accorde une importance toute particulière. Vous savez ça? Parce qu'on pourrait penser, oh, maintenant, tout est dans le ciel. Le temple terrestre à Jérusalem, Dieu ne s'en soucie plus. Le voile a été déchiré. C'est vrai. Mais il y a encore un temple sur terre auquel Dieu accorde une importance toute particulière. Rendons-nous en 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. « Ne savez-vous pas que vous, dit-il, êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, est-il dit, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. » Bien-aimés, l'œuvre ayant lieu dans le sanctuaire céleste, l'œuvre que Christ est en train d'accomplir à l'heure actuelle dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, doit être menée parallèlement dans le sanctuaire terrestre de nos vies, de nos corps. J'ai dit de nos vies, et après, j'ai rajouté de nos corps. Vous pourriez trouver ça surprenant. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que Dieu n'en a que faire de ce qui se passe dans mon corps. Je peux fumer, ce n'est pas un problème. Je peux être un bon chrétien. Je peux manger outre mesure et être un bon chrétien. Je peux manger des choses qui ne sont pas forcément très saines et être un bon chrétien. Mais j'aimerais que nous pensions à ça en lisant 1 Corinthiens 10, verset 31. Il est dit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc, nous voyons que, ici, d'ailleurs, au passage, notez qu'il n'est pas dit la quantité de ce qu'on mange. Ce n'est pas la quantité qui est ciblée ici. Là, c'est la qualité. Soit que vous mangez, soit que vous buviez. Okay? Il y a une philosophie dans le monde qui est que je peux manger de tout. Du moment qu'on le mange avec tempérance, un petit peu, ce n'est pas mauvais. Mais mes amis, la Bible ne soutient pas cette philosophie. Elle dit, soit que vous mangez, soit que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. D'accord? Donc, tout ce que je fais, que ce soit dans le manger, le boire, dans tout ce que je fais au final, je dois chercher la gloire de Dieu. D'accord? Et nous allons, dans le prochain message, considérer un peu ce concept de gloire de Dieu. D'accord? Gardez ça dans votre esprit pour faire la connexion. Mais ici, pour simplement noter que physiquement, mais aussi spirituellement, nous devons prendre soin du temple que sont nos corps, d'accord, nos vies. Et en 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, il est dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été acheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Nous voyons que nous devons glorifier Dieu dans notre corps, mais aussi dans notre esprit. D'accord? Qu'est-ce que nous mettons devant nos yeux? Ou devant nos oreilles? À nos oreilles, qu'est-ce que nous proposons à notre esprit? Faisons attention, mes amis, car Dieu désire que nous lui donnions gloire. Il désire être glorifié dans notre corps, mais aussi dans notre esprit. Comme nous l'avons dit, Dieu désire non seulement nous pardonner, mais aussi nous purifier de toute iniquité. Or, le fait qu'il se trouve à l'endroit où se trouve l'arche de l'Alliance, et très précisément, je parle de Christ, le fait que Christ se trouve à l'endroit où se trouve l'arche de l'Alliance, laquelle contient les tables de l'Alliance, sur lesquelles sont inscrites les 10 paroles de l'Alliance, c'est-à-dire les 10 commandements, eh bien cela indique clairement que Jésus a entrepris l'œuvre du jugement. Je reprends ça, parce que peut-être que certains d'entre vous ne l'auraient pas compris. D'accord? Depuis 1844, on a vu que Jésus est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Là, il y accomplit l'expiation finale, c'est-à-dire l'expiation qui procure la purification des péchés. D'accord? Et à cet endroit, nous avons vu en Apocalypse 11, verset 19, qu'il y a l'arche de l'Alliance. Or, dans le sanctuaire terrestre, nous savons que l'arche de l'Alliance s'appelait ainsi parce qu'elle contenait les tables de l'Alliance. Et pourquoi les tables s'appelaient-elles les tables de l'Alliance? C'est parce que ces tables étaient le support sur lequel, de son propre doigt, Dieu a écrit les 10 paroles de l'Alliance. Et avec cela en tête, nous comprenons que c'est pour entreprendre également l'œuvre du jugement que Christ est entré dans le sanctuaire, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Entendons-nous en Ecclésiaste, chapitre 12, versets 13 et 14. Et prêtons bien attention à ça. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Notez les paroles. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Verset 14. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Bien-aimés, nous pouvons mener une vie convenable. Nous pouvons faire le bien. Nous pouvons être des personnes tout à fait serviables. Mais il n'en demeure pas moins que nous serons jugés. Les bons comme les méchants seront jugés, mes amis. Nous aurons tous à comparaître devant le Dieu de l'univers. Et c'est pour ça que nous devons craindre Dieu et garder ses commandements. Car toute œuvre, soit bien, soit mal, ouverte ou cachée, Dieu les fera venir en jugement, mes amis. Et c'est ce que nous retrouvons en substance dans le message qui est destiné à préparer un peuple pour le retour de Jésus. En effet, en Apocalypse 14, versets 6 à 12, nous lisons « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Et je m'arrêterai là. Vous avez vu la similitude qu'il y a avec Ecclésiaste 12, versets 13 et 14? on a craindre Dieu. Plutôt que de dire, gardez ses commandements, il dit, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, ce qui est la même chose qu'en Ecclésiaste. Il dit qu'il nous faut craindre Dieu et garder ses commandements, car tout va passer en jugement. Et là, Dieu envoie un message aux habitants de l'humanité, aux habitants de la terre, pour leur dire que le jugement a commencé, mes amis. Le jugement est venu, d'accord? Et en raison de cela, il continue en disant, « Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Le terme qui est traduit « jugement », il provient du terme grec « krisis », d'accord? Et « krisis » signifie en fait le jugement investigatif, d'accord? L'investigation du jugement, ok? Je ne sais pas si vous avez déjà eu des problèmes avec la justice, ok? Peut-être pas, mais si vous en avez déjà eu, vous savez que avant de rendre un verdict, la justice d'abord examine le cas, ok? Ils font l'instruction du dossier, c'est-à-dire qu'ils rassemblent les preuves et ils étudient le dossier avant de pouvoir rendre un verdict, d'accord? Et après, il y a la sentence, d'accord? Et il y a deux termes grecs pour jugement, notamment dans l'Apocalypse. Vous avez krima, d'accord, qui s'applique à la prostituée symbolique d'Apocalypse, au chapitre 17. Ça, c'est la sentence. Et vous avez krisis ici, qui est l'investigation, d'accord? Donc, ici, il s'agit du jugement, ok, que Christ, l'œuvre du jugement dans laquelle Christ est impliqué depuis 1844, qui est une œuvre de jugement investigatif, d'accord? Laquelle commence par les morts et après s'étendra ensuite aux vivants. Et un deuxième point ici, c'est qu'il est dit adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Cela est intéressant. Parce que ces paroles-là font très clairement référence à un passage très connu de la Bible. Le quatrième commandement. Le quatrième commandement. Parce que ici, dans ces paroles, nous avons les trois caractéristiques du sceau. D'accord? Ok? Le sceau. Vous savez ce qu'est un sceau? C'est un instrument qui permet d'authentifier les documents, en fait, et qui laisse une trace. D'accord? Et un sceau, vous avez trois caractéristiques. Vous avez le nom de l'autorité, vous avez son statut et sa juridiction. Par exemple, vous prenez Emmanuel Macron, ça c'est son nom. Son statut c'est quoi? Président de la République, qui laisse? Française, d'accord? Là, nous l'avons aussi, et si vous prenez le... On va le prendre parce que ça c'est très important. Je n'ai pas noté parce que je voulais le faire en note de bas de page. Exode 20. Et vous allez voir que c'est identique à ce que nous avons ici en Apocalypse 14, verset 7. Exode 20, et lisons tout le commandement d'ailleurs, le quatrième, verset 8, à partir du verset 8. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait... » Donc, notez qu'il est dit, car l'Éternel, premièrement, a fait en 6 jours les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux, etc., etc. Déjà là, nous avons les trois éléments. Premièrement, le nom, l'Éternel, ça c'est son nom. Son statut, c'est quoi? Il a fait, donc il est le créateur. Et son domaine, c'est quoi? Le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et mes amis, c'est exactement ce à quoi le message du premier ange fait référence. Donc, lorsqu'il nous dit et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, il nous invite, il nous demande, il nous commande d'adorer Dieu en tant que créateur. En faisant quoi? Notamment en observant le sabbat du quatrième commandement. Donc, nous avons ce point-là, d'accord? Après ça, il y a un autre message. Et un autre ange le suivit en disant, « elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Ce message suit le premier. À qui s'adresse ce message? Mes amis, tout simplement à ceux qui n'ont pas accepté le premier message. Parce que si vous acceptez normalement le premier message, vous retournez dans la véritable adoration. Mais ceux qui ne l'ont pas accepté, eh bien, voilà ce qui leur arrive. D'accord? C'est la chute morale. D'accord? Et lorsque on n'accepte pas, mes amis, de retourner à la véritable adoration, eh bien, Dieu considère et il voit que nous allons, eh bien, être ivres et partager le vin qui nous rend ivres avec les autres nations. OK? Et c'est ce qui s'est passé. D'accord? Historiquement parlant, okay, lorsque les églises protestantes ont rejeté le message du... la prédication du message du premier ange, de la venue du jugement. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il en sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Lorsque nous étudions l'Apocalypse, nous voyons qu'il y a une bête, la bête d'Apocalypse 13, celle qui monte de la mer, et que cette bête œuvre en totale opposition avec le Dieu du ciel. Et on nous dit qu'elle a sa marque, d'accord? Ce qui se tient en opposition avec le sceau de Dieu. Or, nous avons vu que le sceau de Dieu se trouve dans le quatrième commandement, en fait. C'est le commandement qui scelle la loi et qui marque son authenticité, en fait, et qu'elle est bien du Créateur. Par conséquent, étant donné que Satan est celui qui fait les contrefaçons, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons qu'il s'agit, en fait, d'un autre jour d'adoration, en fait, d'accord? Et quel autre jour, d'accord, avons-nous vu dans la chrétienté se mettre à la place du sabbat du quatrième commandement? Le dimanche, mes amis, l'observation du dimanche. Ça veut dire qu'à un moment, nous allons voir dans l'histoire de ce monde l'imposition du dimanche comme jour de repos. C'est ce que la prophétie nous dit. Et à ce moment-là, mes amis, eh bien, il y aura une crise sans précédent. Et il y aura même un décret de mort, comme nous le montre l'étude du chapitre 13, d'accord, qui sera promulgué à l'encontre de tous ceux qui ne voudront pas se conformer à l'observation de ce jour. Ça, c'est le message de préparation pour le retour de Jésus, d'accord? Et remarquez maintenant ce qui se passe. Et remarquez, vous allez voir pourquoi je parle de retour de Jésus. Apocalypse 14, versets 14 à 20. « Je regardais encore et voici, il y avait une nuée blanche, et sous la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et en sa main une faux tranchante. Et un autre ange sortit du ciel, criant d'une voix forte à celui qui était assis sous la nuée, « Jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. Alors celui qui était assis sous la nuée jeta sa faux et sous la terre, et la terre fut moissonnée. » D'accord? Et nous pourrions continuer à lire, mais pour des raisons de temps, je vais stopper ici. Puisque, en fait, il y a ici deux moissons, en fait. La moisson de ceux qui seront sauvés et la moisson de ceux qui seront perdus. Ceux qui seront sauvés sont... Celles des sauvés sont décrites du verset 14 au verset 16. Et à partir du verset 17, nous avons la moisson de ceux qui seront perdus. D'accord? Donc ici, nous avons le blé et l'ivraie qui sont physiquement séparés et l'ivraie qui est physiquement détruit aussi. D'accord? Bien-aimés, nous arrivons à la fin de cette présentation et nous allons faire la conclusion maintenant. Nous avons vu que la vérité, à savoir Jésus-Christ, est présente dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, pour mener à bien l'œuvre de purification et de jugement. Nous savons maintenant où la vérité est présente. C'est le cas? Est-ce que maintenant nous savons où la vérité est présente? Donc dans ce cas, maintenant nous savons ce qu'est la vérité présente. Vous comprenez? Maintenant nous savons ce qu'est la vérité présente, mes amis. Il s'agit des enseignements de la Bible qui concernent l'œuvre et le ministère que le Christ est en train d'exercer, de tous les enseignements qui se rattachent à l'œuvre et au ministère du Christ. La doctrine du sanctuaire, la doctrine du second retour de Jésus, okay?
Le message des trois anges,
le millénium, etc., etc. Tout ce qui se rattache, je ne vais pas être exhaustif en matière de détails, mais tout ce qui se rattache à l'œuvre que le Christ est en train de faire, mes amis, c'est la vérité présente. Nous savons maintenant où est la vérité présente. Et comme je le disais, nous avons vu que la vérité, qui est Jésus, est présente dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour mener à bien l'œuvre de purification et de jugement. Mais la question que je voudrais vous poser en conclusion de ce message est la suivante. Est-ce que la vérité est présente en nous? Est-ce que la vérité est présente en nous? Est-ce que Jésus arrive à mener à bien son œuvre de purification des péchés dans nos vies, de telle sorte que nous soyons rendus capables, par sa grâce, d'observer les 10 commandements qui sont la norme selon laquelle nous serons tous jugés, mes amis. En 1 Jean, chapitre 2, verset 4, il est dit, « Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde point ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Bien-aimés, lorsque nous transgressons la loi de Dieu volontairement, et même sans le savoir, en réalité, nous ne sommes pas dans la vérité présente. Parce qu'il est dit que si on ne garde point ses commandements, on est menteur et la vérité n'est point en nous. On peut croire en la vérité présente et ne pas être dans la vérité présente. Mais Dieu veut que nous y croyons et que nous y soyons établis. C'est pour cela que je prie afin que nous ne soyons pas trouvés menteurs en professant le nom de Jésus tout en désobéissant au commandement de son Père. Puisse la vérité être présente en nous selon qu'il est écrit en Galates, chapitre 2, verset 20. Je suis crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Car à l'heure même où nous vivons, eh bien, tu nous révèles ce qu'il en est de ton Fils, de notre Seigneur et Sauveur, vers lequel les yeux de notre foi sont fixés. Et tu nous montres, à nous qui sommes ici, bas sur terre, quelle doit être notre vie et comment elle doit s'harmoniser avec l'œuvre que notre Sauveur est en train d'accomplir au ciel. Et il y a un message, Père, qui doit être proclamé à ce monde afin que toute âme puisse savoir aussi ce qu'il en est et se préparer à l'avènement du Christ, car notre Seigneur est en train d'œuvrer, mais il y a des puissances religieuses qui opèrent des contrefaçons. Et tu désires avertir aussi ton peuple contre cela, afin qu'il ne soit pas piégé et trouvé en inimitié contre toi lorsque Jésus reviendra. Alors Père, aide chacun d'entre nous à pouvoir accepter la vérité, Jésus-Christ, et qu'il puisse être présent en nous, et en ce que nous allons mener à bien, Seigneur. Nous allons te permettre, lui permettre de mener à bien dans notre vie, eh bien, la purification, de telle sorte que, une fois cette œuvre menée à bien, eh bien, nos péchés eux-mêmes seront effacés dans le ciel, et nous serons en mesure de pouvoir, eh bien, tenir devant ta face, sans médiateur, pour attendre le retour de Jésus sous les yeux des cieux, lorsqu'il aura terminé l'intercession. Bénis, Seigneur, ton peuple, et qu'il puisse être établi désormais dans la vérité présente, et que ton nom soit sanctifié, dès maintenant et à jamais. Nous t'en prions en Jésus. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.